Donc, premièrement, vivre l'aujourd'hui de Dieu. Ce titre d'un livre du frère Roger, prieur de Thésée, exprime bien un aspect essentiel de la bonne nouvelle. Nous devons vivre cette bonne nouvelle par le témoignage d'une sérénité aussi parfaite que possible au milieu de tous nos soucis. Nous pourrions d'abord remarquer que la plupart de nos fautes viennent du fait que nous vivons mal notre rapport au passé ou à l'avenir. Voyons plutôt l'orgueil. Je n'en finis pas de me glorifier intérieurement d'avoir réussi quelque chose à la force de mes poignets. La vanité, je n'en finis pas de me réjouir d'avoir été félicité, applaudi quand j'étais sur les planches. Le regret, je n'en finis pas de regretter de n'être plus au début de la semaine, au début de la retraite, ou de ne plus avoir 20 ans, de ne plus avoir mes jambes et ma mémoire de 20 ans. Le remords, je n'en finis pas de me morfondre parce que j'ai mal utilisé une période de ma vie passée. La rancune, je n'en finis pas d'en vouloir à quelqu'un qui m'a fait un mauvais coup. On ressasse le passé. Ou bien, on s'inquiète de l'avenir. On a tellement peur d'arriver en retard à un enterrement qu'on provoque un nouvel enterrement. Ce sont des choses qui arrivent. Eh bien, nous allons voir que la meilleure façon de ne pas nous laisser posséder par un mauvais souvenir du passé ou une inquiétude fébrile de l'avenir, c'est de vivre paisiblement l'instant présent. Comme le fait encore remarquer Gilbert Sesbron en faisant un jeu de mots dans son livre « Ce que je crois », l'instant présent est un présent royal que Dieu nous fait et qu'il est bien sot de ne pas accueillir avec un extraordinaire sentiment d'action de grâce. L'instant présent est le seul moment où je puis en toute vérité aimer Dieu et mon prochain. N'est-il pas, avec l'heure de la mort, le moment le plus important de mon existence, le moment pour lequel je supplie la Vierge dans chaque Ave, qui à l'instant présent a Dieu, disait Thérèse d'Avila, et qui a Dieu à tout. Ou bien vous pouvez vous faire cette petite devise que j'avais inventée il y a bien longtemps, être présent à Dieu, présent dans l'instant présent. Être présent à Dieu qui est là, présent dans l'instant présent. Pour nous aider à réaliser cet ambitieux programme, rappelons-nous qu'une seule seconde de véritable attention à Dieu, de confiance en lui, peut réparer des années entières d'indifférence, d'orgueil ou de lâcheté. C'est ce qui s'est produit chez celui que nous appelons le bon larron. En un instant, le Seigneur a converti son cœur. Et vous savez combien Thérèse avait expérimenté cela dans la nuit de Noël 1886, lorsqu'elle s'est rendue compte qu'en un instant, le Seigneur l'a délivré de son excessive sensibilité, alors qu'après des années et des années, elle n'avait pas réussi à s'en débarrasser par elle-même. Le Seigneur le fit en un instant, se contentant de ma bonne volonté. Quand l'heure de Dieu est arrivée, tout peut s'arranger. Nous avons trop souvent une mentalité de comptable. Nous sommes tentés de mesurer la valeur d'une journée au nombre d'activités que nous avons accomplies, à la besogne que nous avons abattue. C'est un terme que nous devrions réserver aux bûcherons. Eux, ils abattent des arbres. Nous n'avons pas à abattre du travail. Une journée bien employée n'est pas forcément une journée bien remplie. Une journée où nous avons accumulé idées, rencontres, travaux, succès, argent. C'est tout simplement une journée où nous nous sommes contentés d'être disponibles à l'événement, attentifs à Dieu et aux autres, même si nous n'avons pas pu accomplir la moitié du travail prévu. Comme le dit Marie Baudouin-Croix, n'évalue pas le prix de ta journée finie au travail abattu, mais autant impromptu qu'aux autres tu offris. La qualité de la vie dont on parle tant, c'est d'abord pour nous chrétiens vivre paisiblement chaque instant de notre existence comme un moment merveilleux où le Père veut nous gâter et où nous pouvons rendre le monde éternellement plus beau. Chaque instant, disait Lacordaire, vient à nous avec un ordre de Dieu. Nous pouvons dire pareillement qu'il vient à nous avec un don de Dieu. À nous de ne pas le laisser passer, de ne pas le laisser se gaspiller. Peu importe si l'emballage du cadeau est parfois déconcertant, si la poste l'a quelque peu malmené, car un léger moment d'affliction, comme dit saint Paul, nous vaut un poids extraordinaire de gloire éternelle. Nous devons par conséquent lutter sans cesse contre la frénésie de la vitesse, qui est peut-être le défaut fondamental de l'être humain, qui n'accepte pas sa condition humaine, qui est d'une condition temporelle. Nous voudrions aller plus vite. Le jeune voudrait avoir appris sa leçon avant de l'avoir lue. Le professeur voudrait avoir corrigé ses copies avant d'y avoir mis le nez. Les amoureux veulent faire les gestes définitifs de l'amour avant qu'il ne soit temps. Les mystiques voudraient arriver tout de suite au sommet de la montagne du Carmel sans passer par les lacets intermédiaires. Parce que même quand on prend la petite voix de Thérèse, les bras de Jésus, on sait qu'il faut du temps pour arriver à la perfection de l'amour. Les éducateurs voudraient que les enfants deviennent des adultes sans passer par le stade de l'adolescence. On voudrait aller trop vite. Et il faut sans cesse accepter que les choses se fassent lentement. C'est Lacordaire qui écrivait « C'est inouï ce que l'on peut faire avec le temps quand on a la patience d'attendre. » Les cultivateurs savent qu'on ne fait pas pousser le blé en tirant sur les tiges. Dieu lui-même s'est soumis à la loi du temps. Le Fils de Dieu, l'Éternel, s'est incarné dans l'histoire et il a mûri peu à peu, il a grandi en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est l'un des aspects fondamentaux du mystère de l'Évangile. Jésus accepte de jouer le jeu du temps. Son heure n'arrive pas immédiatement. Il attend que le Père le glorifie quand il voudra. Et il lui a fallu des années et des années pour apprendre son métier d'homme et son métier de prédicateur. Il a dû vivre des années et des années à Nazareth pour pouvoir trouver le langage qui lui permettrait d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, pour pouvoir mijoter les paraboles qu'il allait raconter plus tard. Ça ne s'est pas fait en un instant.